Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Combats et métamorphoses d'une femme. C'est le titre du nouveau livre d'Édouard Louis qui sortira demain en librairie. Ce pourrait être le titre de cette émission, car je vous propose ce soir des livres qui évoquent des histoires de femmes qui luttent pour avoir le droit d'être des femmes. Elles se battent contre la non-existence que leur impose la vie, la misère ou bien leur milieu. Bonsoir Édouard Louis.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Merci beaucoup.
Vous avez 28 ans, je le rappelle toujours, hein, parce que je suis toujours sidéré par votre jeunesse, votre maturité et la surprise que représente un nouveau livre venant de vous. Je rappelle que votre premier ouvrage, Pour en finir avec Eddie Bellegueule, paru il y a 7 ans, a connu un succès phénoménal, plus de 300 000 exemplaires, des traductions dans le monde entier, une adaptation, ai-je lu, en préparation. Oui. Avec James Ivory, rien que ça.
C'est formidable, moi-même je suis un peu surpris, peut-être encore plus que vous, mais ouais.
C'est le grand cinéaste James Ivory, mais ce sera une série télé, c'est ça?
Une série télé, ouais, qui sera un mélange en fait d'en finir avec Eddie Bellegueule et du livre qui a tué mon père, qui était consacré à mon père. Et voilà, c'est une série qui est en pleine écriture et que je suis de près.
Vous travaillez, je crois, avec un autre grand cinéaste, c'est Ken Loach. Pour quel projet?
Avec Ken Loach, on travaille sur un projet de livre de dialogue ensemble, de conversation sur les classes sociales, sur la politique et sur les manières d'articuler la littérature à la politique, parce que je pense qu'on a et le cinéma à la politique, parce que je pense qu'on a le même projet d'utiliser l'art pour questionner le monde et le rendre un peu moins laid, je crois. Ouais.
C'est l'une des grandes questions qu'on posera ce soir. Peut-on questionner l'art pour rendre le monde un peu moins laid? Comment l'utiliser? On va en parler avec Olivier Bourdeau aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. On vous avait découvert il y a 5 ans maintenant avec ce premier roman, En attendant Bojangles, devenu un véritable best-seller, plus de 500 000 exemplaires vendus. Alors là, vous osez un contre-pied radical, et je dois dire que c'est totalement réussi. Florida, c'est votre troisième roman. Il sortira demain aux éditions Finitude et il raconte le combat d'une jeune fille qui, à l'âge de 7 ans, est exhibée par sa mère sur les podiums des Minimis et qui cherche à prendre sa revanche. Deux romancières belges sur le plateau, Caroline de Mulder et Adeline Dieudonné. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir, de vous retrouver aussi. Alors, c'est un hasard, car en réalité, ce sont vos romans qui priment et qui m'ont alors totalement séduit, emporté et qui se répondent, me semble-t-il. Caroline de Mulder, vous mettez en scène, vous, trois jeunes filles de 15 ans, un gang de filles qui pratiquent ce qu'on appelle le sugar dating. Elles braquent sans aucun scrupule leur proie de riches messieurs qui pensent s'offrir une nuit de débauche, combat pour sortir de la misère et de la perdition. Mais alors, tous les moyens sont bons pour en sortir. On va en parler. Adeline Dieudonné, votre premier roman, La vraie vie, on s'en souvient, a été, alors, allez, la révélation de la rentrée littéraire, il y a 3 ans, bardé de prix, immense succès public, et votre nouveau roman est un puzzle, à moins que ce ne soit un kaléidoscope, allez savoir, qui raconte les combats de femmes qui ont un point commun. Elles sont toutes sur une aire d'autoroute, une station-service, une nuit d'été, lorsqu'une vieille dame enjambe le garde-fou et se jette sous une voiture. Alors, la fiction ou, au contraire, la réalité? Ça, c'est aussi un grand sujet. Est-ce qu'on raconte le monde tel qu'il est ou est-ce qu'on fait un pas de côté, un détour par une histoire que l'on invente? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on invente quand on raconte l'histoire des gens qui existent? C'est au cœur de votre livre, Édouard Louis, et au cœur de votre œuvre, après donc en finir avec Eddie Bellegueule, mais aussi Histoire de la violence, Qui a tué mon père? Vous poursuivez, alors ce que j'ai envie d'appeler votre travail d'archéologue du silence, avec ce livre consacré cette fois-ci à votre mère et intitulé « Combat et métamorphose d'une femme ». Il sort demain aux éditions du Seuil. « Tout a commencé par une photo », écrivez-vous, dès la première ligne de ce livre. Votre mère a 20 ans, c'est un selfie, on n'appelle pas comme ça les choses à l'époque. Pour quelle raison cette photo que votre mère prend d'elle-même vous explose-t-elle à la figure aujourd'hui au point de constituer le point de départ de votre livre et de votre enquête sur vous-même, votre famille et votre mère?
Oui, c'est-à-dire que un jour, j'étais chez moi, je cherchais des choses, je ne sais plus exactement quoi, dans des vieux dossiers. Et j'ai retrouvé cette photo de ma mère que vous évoquez, qui était une photo de ma mère à 20 ans, où ma mère avait l'air heureuse, pleine de joie, pleine d'espoir. Et paradoxalement, en voyant cette photo de ma mère, j'ai repensé à toutes les années que j'avais vécues auprès d'elle, avec elle, quand ma mère était cette mère au foyer qui était complètement écrasée par sa condition de femme, avec mon père qui la remettait à sa place, qui attendait d'elle qu'elle reste à la maison, qu'elle fasse à manger pour nous, qu'elle cuisine pour lui, qu'elle l'attende, qu'elle fasse le ménage. Que ma mère a vécu toute une vie en grande partie de pauvreté, de misère et de dépossession. Et de voir cette photo, finalement, m'a montré en négatif à quel point la destruction de ce bonheur qui apparaît sur cette photo, juste avant cette vie domestique, à quel point cette destruction était scandaleuse. Et comme je dis au début du livre, l'image du bonheur m'a rappelé le scandale de sa destruction. Je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Pourquoi le visage qu'elle avait, ce bonheur sur son visage, comment il a disparu? Pourquoi il a disparu? Et donc le livre, au fond, est une archéologie de la destruction de la vie d'une femme, et j'espère à terme de la vie de beaucoup de femmes, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe pour beaucoup de femmes dans leur vie.
Votre mère, c'est un modèle universel, c'est-à-dire que vous parlez évidemment de celle que vous connaissez. Ah, connaissez, tiens, je ne suis pas sûr que ce soit le bon verbe, mais on va y venir. C'est une mère qui peut être toutes les mères et qui parle pour toutes les mères?
Alors, pas totalement, parce qu'il y a une communauté de destin, évidemment, dans la domination masculine, entre toutes les femmes, dans la domination masculine qu'elles vivent, l'exposition à la violence masculine. On sait qu'en France, il y a quasiment une femme tous les jours qui meurt à cause de la violence de la domination masculine, à cause des coups. Et donc, être une femme, c'est être exposé aussi à une mort prématurée dans nos sociétés, il faut le dire, c'est comme ça, tout comme être gay, tout comme être noir, etc. Et donc, oui, il y a un partage de cette condition qui dépasse le simple cas de ma mère, mais dans la situation de ma mère, et c'est ça que j'ai voulu raconter aussi, parce que j'ai trouvé qu'au fond, c'était une figure assez absente des discours contemporains sur la condition des femmes et des discours féministes. Il y a non seulement une femme, mais une femme des classes populaires, une femme, ma mère était une femme qui a vécu pendant toute sa vie une double domination, à la fois une domination en tant que femme et une domination en tant que femme des classes populaires. Et si vous voulez, cette domination de classe qui venait s'ajouter à la domination de genre faisait que ma mère était encore plus emprisonnée dans la domination de genre. Parce que quand vous êtes une femme sans argent, comment vous faites pour vous sauver si vous avez un mari abusif? Quand vous êtes une femme qui connaît personne, quand vous êtes une femme qui n'a pas pu faire d'études, qui n'a pas de diplôme, qui se retrouve face à un État qui prend de moins en moins en charge les gens, les individus, on sait que, et c'est ce qu'on aborde dans le livre qu'on a fait ensemble avec Ken Loach, les aides sociales sont de plus en plus supprimées dans nos sociétés, il y a de moins en moins d'assistance de la part de l'État, il y a un engagement de l'État, une violence politique qui fait que c'est pas seulement une question d'avoir de l'argent ou pas, simplement une question d'avoir des aides sociales ou pas, c'est comment je fais pour partir, comment je fais pour sortir. Ne pas avoir d'argent pour une femme des classes populaires aujourd'hui, c'est être dans l'impossibilité de fuir une condition de femme qui est imposée. C'était le cas pour ma mère.
Mais vous montrez bien que ça n'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi la question du déclic, de la volonté, du hasard, de l'opportunité. C'est d'ailleurs une question qui est au cœur de tout vos livres, même si vous avez choisi le roman, Caroline de Mulder, Olivier Bourdeau, Adeline Dieudonné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'échappe, ou je tente d'échapper à ma condition, ou à ce que je subis? Est-ce que vous rajouteriez l'âge? Parce que ce qui m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, et vous commencez par cela, c'est que c'est une adolescente. Oui. Est-ce que c'est votre mère dont vous parlez, ou est-ce que c'est une ado que vous ne connaissiez pas? Vous écrivez, elle est mère à 16 ans, premier mariage, mère au foyer à 18 ans.
Oui, ma mère a été mère très jeune, ce qui a conduit à une forme d'épuisement dans sa vie, d'une réalité qui était d'autant plus difficile à vivre qu'elle l'avait vécu très tôt. Mais paradoxalement, et c'est pour ça que mon livre s'appelle Combat et métamorphose, un jour ma mère s'est totalement transformée. Et ça faisait plusieurs années qu'on avait une relation qui s'était un peu défaite, délitée. On s'était un peu éloigné parce que j'étais parti du village.
J'avais le mot est faible, pardonnez-moi, mais si je vous lis attentivement, délité...
Oui, non, mais j'avais voulu fuir à tout prix mon enfance. J'avais détesté mon enfance.
Mais c'est ce que je dis dans le... Violence et d'une cruauté invraisemblable.
Oui, parce que je...
Bah, vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis de votre milieu, ça on le sait, mais vous l'avez écrit déjà, mais vis-à-vis de votre mère aussi.
J'étais un enfant qui était cruel vis-à-vis de ma mère, c'est aussi un des enjeux pour moi du livre. En fait, en tant qu'enfant, j'ai fait partie de cette domination, j'ai fait partie de cette violence. Je voyais mon père qui attendait de ma mère qu'elle reste à la maison, qu'elle ne sourie pas, qu'elle ne soit pas heureuse, qu'elle fasse le ménage, qu'elle fasse la cuisine. Et comme beaucoup d'enfants, je reproduisais le monde tel qu'il était. Je voulais pas que le monde change. Les enfants, en fait, sont des... C'est étonnant comme les enfants peuvent être des sujets politiques fascistes qui veulent pas que la réalité change. Vous voyez, on entend toujours des histoires comme ça, des petits garçons qui vont avec un cartable de petite fille à l'école et qui se font tabasser par des enfants de 6 ou 7 ans. Il y a une forme de conservatisme violent chez les enfants. Et moi, j'ai fait, en tant qu'enfant, c'est une phrase que je dis à un moment dans le livre, même en tant que fils face à ma mère, je restais un homme face à une femme et je faisais partie de la reconduction et de la reproduction de la violence qu'elle vivait. Je raconte cette scène où, quand j'étais petit, parfois, ma mère se mettait à mettre sa chanson préférée, qui était une chanson du groupe Scorpion, qui est The Wind of Change. Et ma mère, quand elle écoutait cette chanson, elle se mettait à sourire, elle disait « c'est la chanson de ma jeunesse, c'est la chanson de mon adolescence, de ma liberté ». Et quand ma mère faisait ça, j'étais un enfant de 7 ou 8 ans, et je lui disais « arrête avec cette musique, arrête de sourire, arrête de faire ça ». Je me sentais presque insulté par son bonheur. Et aussi, donc, écrire ce livre, c'est écrire un livre contre moi aussi, contre l'enfant que j'ai été. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas non plus aussi une incompréhension de l'autre côté. Ma mère ne comprenait pas non plus ce que j'étais.
Mais alors, vous écrivez à un moment que vous voulez faire ce livre et vous expliquez votre cruauté à l'égard de votre mère par le fait que vous ne vouliez absolument pas qu'elle devine qui vous étiez. Oui. Mais qui étiez-vous à 9 ans?
J'étais un petit garçon gay, un petit pédé, comme on me le disait. Et évidemment, cette condition sexuelle, mon homosexualité, me coupait totalement de ma famille, me coupait totalement du monde de mon enfance, produisait une forme d'incapacité de parler avec mes parents. C'est ce que j'ai raconté dans « Finir avec Eddie Bellegueule », c'est que quand j'étais enfant, j'allais à l'école et tous les jours à l'école, d'autres enfants m'attendaient dans un couloir pour me cracher dessus, pour me dire « sale pédé, pourquoi t'es un pédé, pourquoi tu parles comme une pédale ?» Et pour moi, le grand combat de mon enfance, c'était de faire en sorte que mes parents ne sachent pas que tout ça arrivait. Je ne voulais pas que les gens sachent que je souffrais. J'en ai beaucoup parlé à travers mes précédents livres, mais une des questions que je veux poser, c'est comment on change le monde si les individus qui souffrent ne veulent pas dire « je souffre ». Moi, j'étais enfant, je souffrais de cette homophobie à l'école. Je ne voulais pas que les gens le sachent. Moi, quand j'ai publié « En finir avec Eddie Bellegueule », où je décrivais la pauvreté dans le monde de mon enfance, donc qui parlait déjà en partie de ma mère, la première question que ma mère m'a posée, c'est « Pourquoi tu dis qu'on est pauvre ?» Parce que ma mère, elle avait peur, elle avait honte d'être pauvre, elle avait peur de le dire, elle avait peur que des gens le sachent, parce que, je l'ai déjà dit aussi beaucoup, mais je continuerai de le dire, le monde dans lequel on vit n'arrête pas de faire croire aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, que c'est parce qu'ils n'ont pas assez mérité, pas assez étudié, pas assez travaillé, et à la fin, les gens ne veulent plus dire « je souffre ». Moi, il y a une chose...
Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le rapport politique à la pauvreté crée le silence dans les familles.
Absolument, oui. Absolument, parce que aussi quand les gens sont oppressés par une condition économique, par une condition de pauvreté, c'est beaucoup plus difficile d'être généreux quand on nous enlève tout. C'est beaucoup plus difficile d'être gentil, c'est beaucoup plus difficile d'être doux. Il y a cette scène aussi que je raconte dans le livre où à un moment donné, ma mère, par une sorte de miracle, elle s'est battue comme une folle et on a réussi à partir en vacances à travers un système d'aide sociale alors qu'on n'aurait jamais pu y aller normalement. On a payé 20 euros pour partir à la montagne. Et tout à coup, ma mère, étant à la montagne, est devenue une femme qui était libérée de son mari, libérée de la pesanteur domestique. C'était une femme qui s'est mise à sourire, à être heureuse, à rire avec moi, à s'intéresser à moi. Et c'est une femme que je ne reconnaissais pas tout à coup. Et donc, je me suis rendu compte en négatif à ce moment-là que donner du bonheur aux individus, c'est leur donner aussi la possibilité d'être plus généreux à l'égard des autres. Pierre Bourdieu avait une très belle expression qui était l'économie du bonheur. Qu'est-ce que ce serait de fonder une politique et une économie dans nos sociétés qui consisterait à donner plus de bonheur dans la vie des gens et à terme les rendre plus généreux à l'égard des autres.
Alors ça se fait en plusieurs temps, hein, le bonheur. Et c'est ce que vous montrez bien aussi, Édouard Louis. Il faut d'abord exister. Et peut-être, avant d'exister, pour exister, se libérer d'un certain nombre de choses. Je voudrais revenir sur une dimension que vous avez soulignée, qui est très présente dans votre livre, et il me semble qu'il va d'ailleurs encore plus loin que pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'est la différence entre la misère et la pauvreté. Vous insistez à plusieurs reprises en disant « mais en réalité, ce n'est pas la même chose, et nous étions du côté de la misère ». Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, en 2021 le regard d'un jeune homme de 28 ans sur cette France des années 90 qui est une France de la misère.
Oui, qui était une France qui existe encore, malheureusement. On l'a vu à travers des prises de parole politiques ces derniers temps, avec les gilets jaunes, avec des gens qui ont essayé de dire leur misère et leur colère, même si on a essayé de les faire taire, même si la police et les gouvernements ont tenté de les faire taire. C'est une misère qui vit dans le... On vivait dans les aides sociales, dans la difficulté à se nourrir, et une forme de sentiment d'écrasement absolu. Mais dont ma mère aujourd'hui, et c'est l'objet du livre, et je pense que c'est ce qui distingue ce livre-là de ceux que j'ai fait avant, ma mère réussit à un moment donné à sortir de cet écrasement qui est sa vie.
C'est le combat et la métamorphose. Est-ce que vous employez le mot « libération » pour votre mère ?
Ah ouais, c'est un mot compliqué, mais c'est clair que dans la trajectoire de ma mère, enfin c'est un des axes du livre, une des histoires que j'essaie de raconter. Un jour, ma mère m'a appelé en pleine nuit, elle m'a dit « j'ai foutu ton père à la porte, ça y est, maintenant je suis une femme libre ».
Premier acte de la métamorphose ?
Premier acte de la métamorphose, même si ça avait déjà commencé, il y avait une sorte de préambule à la métamorphose qui était quand elle s'était débarrassée de son premier mari, quand elle avait 20 ans, elle avait déjà deux enfants, mon grand frère et ma grande sœur. Elle s'est débarrassée de son premier mari qui buvait beaucoup.
Mais vous êtes dur avec elle sur ce sujet, parce que vous dites qu'elle s'en est débarrassée, c'est vrai ? Oui, un petit peu. mais elle est retombée, écrivez-vous et montrez-vous, dans pratiquement la même mécanique, comme s'il y avait un déterminisme social... peut-être même d'ailleurs géographique, à cet endroit-là, qui fait qu'on ne peut pas se libérer aussi facilement ou aussi jeune.
Bah, c'est-à-dire, oui, c'est pas vis-à-vis d'elle que je suis dur, c'est vis-à-vis des hommes qui l'ont délimité le périmètre de sa vie pendant toute son existence. Ma mère a quitté son premier mari quand elle avait une vingtaine d'années. Elle s'est remise avec un autre homme, mon père, en pensant qu'avec lui, elle vivrait le bonheur, l'émancipation et la douceur. Elle s'est retrouvée avec un homme qui reproduisait les mêmes modèles, de pas toujours être doux avec elle, de la réduire à l'espace domestique, lui-même souffrant de beaucoup de choses hein, que j'ai exprimées dans mes autres livres. Mais elle est retombée encore dans une forme de spirale de domination masculine dont elle a réussi à un moment donné à se libérer.
Comment ? Par quel mécanisme ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la libération de votre mère ?
Ben, je crois que c'est difficile de le dire sans avoir l'air arrogant ou quoi que ce soit, mais je pense que la libération de ma mère, elle s'est produite dans une forme de dialogue qui s'est instaurée entre nous. Moi, au bout d'un moment à la fin de mon enfance, j'ai voulu échapper à cette enfance le plus possible. Je suis parti, je suis allé faire des études, je suis parti dans une grande ville, je me suis arraché à ça. Et en fait, en m'éloignant de la violence de mon enfance, de la violence de la dépossession économique, de la violence des conditions de vie, j'ai commencé à instaurer une forme de dialogue avec ma mère, d'essayer de comprendre sa vie, d'essayer de comprendre ses conditions de vie. Et tout à coup, cette vie à ma mère qui semblait presque normale au début, au fond, parce que même si elle était violente, cette vie, elle était partagée par beaucoup de femmes autour d'elle, par ses ancêtres, par tout un... Tout à coup, cette violence, elle est devenue insupportable, elle était rendue insupportable dans ce dialogue. Et je pense que, si vous voulez, il y a une forme de chaîne de transformation qui s'est mise en place entre ma mère et moi. Avant, je parlais beaucoup des chaînes de violence, comment qu'on est l'objet et le sujet de la violence politique en permanence. On finit soi-même par reproduire des mécanismes de violence sur les autres. Quand on est stressé, malheureux, accablé, on finit par être dur avec les autres. Mais d'une autre manière, il existe aussi des chaînes de libération. Et chaque personne qui se libère rend d'autres libérations possibles.
Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que, allez, dès que la libération ou la métamorphose est enclenchée, elle en entraîne une autre, quasi mécaniquement ?
Oui. Je pense beaucoup. Je pense que Aimé Césaire avait une très belle expression qui était les révolutions silencieuses. Aimé Césaire disait chaque livre permet, en tout cas les grands livres ou les livres importants ou les livres qui s'affrontent au monde, permet une libération silencieuse. Et on imagine le nombre de femmes qui ont dû être libérées au moment où elles ont ouvert le deuxième sexe de Simone de Beauvoir pour la première fois, de tout à coup comprendre la condition qu'on avait vécue, de tout à coup comprendre ce qui nous était arrivé, pourquoi on a la vie qu'on a, pourquoi on a été empêché de faire des choses, pourquoi on est très frustré sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des chaînes de libération qui se mettent en place à chaque fois que quelqu'un parle de libération. Et moi, ce que j'espère, c'est que ce livre pourra produire des libérations, parce que sinon, pour moi, la littérature sert à rien si elle ne fait pas ça.
Vraiment. Alors, on va venir à la littérature avec la question du langage, parce que ce qui est très frappant, c'est que vous revenez sur votre métamorphose à vous. On peut dire qu'elle a, peut-être peut-on dire, qu'elle a commencé au lycée, à partir du moment où le jeune Eddy, belle gueule, découvre le langage. Des mots nouveaux. Et ça, c'est un passage formidable de votre livre et qui est une forme splendide d'éloge de la curiosité, mais aussi du vocabulaire, de la langue. Elle a un rôle politique ici, la langue. Elle vous permet, en découvrant des mots nouveaux, finalement, de devenir un transfuge dans votre tête,
oui.
De classe.
Oui, bien sûr, exactement. C'est-à-dire, j'ai découvert des mots qui me permettaient de mettre de la raison, de l'explicitation sur mon passé, de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, ce qui m'était arrivé, de tout à coup me mettre à exister, à me constituer comme personne, je pense, à plein de niveaux, mais notamment en tant que gay, par exemple. Quand j'ai découvert l'existence d'une littérature gay, d'un cinéma gay, quand j'ai découvert Pedro Almodovar, Gus Van Sant, le langage de Proust, le langage de Gide, le langage de Coltès, tout à coup, j'ai découvert des mots qui me permettaient de mettre des motifs sur mon histoire et de comprendre qu'au fond, il y avait tout un ensemble d'individus qui s'étaient battus pour que je puisse exister, qui s'étaient battus pour que je puisse avoir le droit de dire « je », pour que je puisse exister dans l'espace public.
Caroline de Mulder, vous qui enseignez, je crois, à la littérature, vous n'êtes pas que romancière, vous êtes essayiste aussi et prof. Comment réagissez-vous à cette mission qu'Édouard Louis assigne à la littérature? Espoir peut-être autant que mission, d'ailleurs.
Alors, pour moi, la mission de la littérature, c'est de faire voyager, c'est d'explorer des univers inconnus, c'est de faire voyager le lecteur. Alors, moi, c'est vrai que j'écris des romans qui n'ont pas de message.
On pourrait quand même le discuter.
On peut toujours discuter.
Et on va en parler dans un instant avec votre roman. Mais est-ce que vous retrouvez les uns les autres dans l'idée que défend Édouard Louis, à savoir cette idée aussi que cette littérature permette de donner la parole, de raconter, d'être un outil aussi de libération?
Concernant les mots, il y a des études qui prouvent que plus les gens maîtrisent de vocabulaire, moins ils sont violents. Plus ils peuvent affiner la façon dont ils pensent, et plus ça apaise le rapport avec les autres. Par conséquent, je trouve ça assez bizarre que dans la littérature jeunesse, on fasse disparaître tous les mots qui sont un peu compliqués en disant « bon, les pauvres enfants ne vont pas comprendre ». Moi j'avais un carnet de vocabulaire quand j'étais enfant, et c'était mon trésor. C'est-à-dire que…
Qu'est-ce que vous mettiez dans votre carnet de vocabulaire?
Tous les mots que je ne comprenais pas, je les cherchais dans un dictionnaire. Ouais. Et sur les conseils de mon père, j'ai fait ça pendant des années. Et je considérais que j'étais de plus en plus riche. J'accumulais les mots. Ça me permettait de préciser ma pensée dans les conversations, de préciser aussi les pensées vis-à-vis de moi. J'arrivais à trouver un mot qui justifiait pleinement le sentiment que j'éprouvais.
Et on n'a pas besoin que ce soit des mots très compliqués. Parce que finalement, vous, c'est ce que vous faites. Vous dites les mots qui vous ont sauvé, qui pourraient être dans votre carnet à vous de vocabulaire, c'était des mots comme bucolique, fastidieux ou sous-jacent, qui ont l'air d'être des mots simples et qu'on emploie quasi tous les jours.
Oui. Moi, le premier mot, c'était pusillanime. C'est un bon mot pour le Scrabble. Et en figurique, mais enfin… Plus le temps passait, plus les mots étaient compliqués. Il y a des mots dont je ne me sers évidemment jamais. Mais je pense qu'on devrait instituer le carnet de vocabulaire à l'école.
Vous avez choisi un langage dans ce livre, comme dans tous vos livres, mais celui-ci est encore plus épuré. Votre langage va droit au but, pas de gras, très peu de descriptions physiques, des faits, et l'interprétation que vous portez de manière rétrospective. Pour quelle raison ce fil sur lequel que vous tendez, sur lequel vous écrivez, au risque parfois de trébucher? Ce que vous ne faites pas, parce que c'est parfaitement tenu.
Non, mais c'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est lié à ce que vous disiez avant, mais c'est un peu l'autre face du langage. C'est-à-dire, il y a d'une part le langage et les mots comme libération, et pour moi, comme pour beaucoup de gens, le langage a été une possibilité à un moment donné de se comprendre, de comprendre le monde autour de soi. Mais il y a autre chose qui est le langage comme violence. Et cette scène dont vous parlez, où au lycée j'apprends des mots qui me paraissent des mots d'un autre monde, des mots bourgeois, des mots sophistiqués comme ça, sont des mots, je le raconte dans le livre, ce sont des mots aussi que je voulais utiliser à un moment donné pour montrer à ma famille que j'étais plus comme eux, que je parlais mieux qu'eux, que je savais mieux m'exprimer. Et donc pour moi, je voulais aussi essayer de montrer la manière dont, en tant que transfuge de classe, j'avais aussi perpétué une violence à l'égard de ma famille, comme, si vous voulez, dans une forme de tragédie, d'une forme de tragédie grecque, si vous voulez, où je vivais dans un monde où les gens étaient écrasés, ce qui pouvait les rendre durs, ce qui pouvait les rendre agressifs. Et moi, à mon tour, je produisais un cycle de vengeance où je voulais être agressif avec les gens qui avaient été agressifs avec moi. Et pour moi, écrire, c'est sortir de ces cycles de vengeance, sortir de ces cycles de malédiction, essayer au contraire d'avoir une démarche compréhensive. Pourquoi ma mère était violente comme ça ? Pas violente physiquement, évidemment, mais dans son attitude qui était une absence de compréhension de ce que j'étais. C'est ce que vous disiez. Moi, beaucoup de gens dans mon enfance ne connaissaient même pas le mot « gay ». Ils disaient le mot « pédé ». Donc le seul mot qu'ils avaient pour parler de moi, c'était déjà une insulte. Donc comment vous traitez les gens ?
Quand
le langage est déjà une insulte, absolument. Quand le langage est déjà, oui, toujours déjà une insulte. Et ça, c'est quelque chose de... Vous voyez, je ne sais pas si on peut raconter ça. Il y a une anecdote incroyable, à un niveau de violence beaucoup plus grand, qui est une anecdote dans le livre de Primo Levi, qui est un des rescapés des camps de concentration, qui a écrit un livre qui s'appelle les naufragés et les rescapés, dans lequel Primo Levi raconte qu'il a appris l'allemand dans les camps de concentration, par la force des choses, si je puis dire. Et quelques années après, Primo Levi survit. Il se retrouve dans une réunion de travail avec des Allemands et il veut leur montrer qu'il parle allemand. Et à la fin de la réunion, Primo Levi dit « vous pouvez disposer ». Or, comme l'allemand que connaît Primo Levi est l'allemand des camps de concentration, c'est évidemment un allemand pénétré d'une violence extrême, etc. Mmh. Et au moment où Primo Levi croit pouvoir dire « vous pouvez disposer », il leur dit « cassez-vous, bande de blaireaux ». Et il voit les visages tétanisés face à lui. Mmh. Et là, Primo Levi se dit « il y a des langages qui sont déjà des violences avant même d'avoir décidé d'être violent ». Et au fond, moi, c'est comme ça que j'explore le langage dans mes livres, évidemment à un autre niveau qui n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'un langage qui porte déjà en lui toute la violence du monde, et comment faire au moment où j'écris pour trouver des moyens de détourner cette violence, de contourner cette violence, d'utiliser la violence contre la violence. Et oui, c'est un peu cette chose que je recherche, notamment dans cette épure.
Il y a dans ce livre épuré et court une belle interrogation sur la littérature. On m'a dit, écrivez-vous, page 19, que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement illustrer la réalité. Et j'écris pour expliquer et comprendre sa vie, celle de votre mère. Bref, vous faites exactement l'inverse de tout ce que l'on vous a dit, de tout ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire, pas de message politique, vous, il n'y a que ça. bon, voilà, les phrases sont aiguisées comme des couteaux, alors qu'on a plutôt tendance à dire « Non, attendez, gardez ça pour vous, ne pensez pas par slogan. » Non, qu'est-ce qui vous motive ? J'ai parfois l'impression que c'est aussi votre ambition d'écrivain que d'écrire contre.
Oui, moi j'écris contre. Je déteste le monde dans lequel on vit et ça me donne envie d'écrire contre ce monde. Et peut-être que ça vient de là où je viens, ça vient du milieu d'où je viens, ça vient d'une forme de rapport au passé, mais j'ai toujours été dans un mélange étrange entre une fascination absolue pour la littérature, évidemment. J'ai passé des nuits de transe en lisant Marguerite Duras ou Marcel Proust ou d'autres. Et à la fois une forme de méfiance qui est des incompréhensions que j'ai toujours eues. J'ai jamais compris, par exemple, qu'on puisse dire du bien d'un livre en disant tout est suggéré, tout est à peine dit, tout est à peine explicité. Ça, je comprends pas. Parce que je me dis, mais en quoi est-ce qu'on favorise le fait de ne rien dire ? Est-ce que c'est parce que les classes dominantes ont peur qu'on dise la vérité du monde, parce qu'elles se sentiront confrontées au monde, elles se sentiront confrontées à la violence du monde ? Dire le monde, c'est dire aux gens aussi, qu'est-ce que vous faites de ce monde ? Est-ce que vous vous battez pour le rendre meilleur ? Est-ce que vous le battez pour le rendre moins bon ? Et à partir de ce moment-là, je me demande si, au fond, l'espèce d'idéologie qui pèse sur la littérature, qui est une idéologie d'implicite, en dire le moins possible, illustrer plutôt les choses par des personnages plutôt que les dire, si tout ça ne relève pas d'une manière de jamais s'affronter au monde. Et en ce sens-là, moi, oui, je veux faire une littérature qui s'insurge contre la littérature. Je déteste la littérature, d'une certaine façon. C'est vrai.
C'est la raison pour laquelle, j'adore cette espèce de confession, je déteste la littérature, d'Edouard Louis. Alors là, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous tenez si loin du roman ?
Oui, je crois aussi. Alors, c'est quelque chose que Cagny Arnaud, que j'admire beaucoup, a beaucoup thématisé. Qu'est-ce que c'est que d'être à l'aise ou pas à l'aise dans un monde, dans un milieu, et ne pas être à l'aise dans l'écriture romanesque ? Moi, je peux pas. J'ai l'impression que je vole quelque chose au monde que j'essaie de décrire quand je fais de la fiction. J'ai l'impression que si je ne parle pas des gens dont je parle, si je n'écris pas un livre sur ma mère, personne ne l'écrira jamais. Si vous êtes Toni Morrison ou Hillary Clinton, des gens écriront sur vous. Si vous êtes ma mère, personne n'écrira jamais sur vous. Et moi, j'ai besoin de cet espace de vengeance. J'ai grandi dans un monde des...
Cet espace de vengeance.
Oui, un petit peu, parce que je pense que toute personne qui a connu...
Vous la vengez, elle, ou vous vous vengez d'elle, ou les deux à la fois ?
Non, j'espère que je ne me venge pas d'elle, j'espère que je la venge, elle, du destin qui a été à un moment donné le sien, de son milieu, de sa classe, et d'un milieu qui était toute personne, je pense, qui a un peu vécu ou connu les classes populaires. C'est qu'une des phrases qu'on entend tout le temps, c'est « personne ne parle de nous, personne ne se soutient de nous, personne ne nous entend ». Et moi, j'ai eu des moments dans ma vie, vous savez, où j'ai voulu écrire des romans, de littérature, de fiction. Et je me suis mis face à mon ordinateur et j'ai eu honte de moi. Je n'ai pas réussi. Et pourtant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je lis Toni Morrison, je lis Marguerite Duras. Non, mais vous voyez, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas.
Pardonnez-moi une question, mais comme vous revendiquez la liberté de l'écrivain, est-ce que ce que vous racontez, livre après livre, n'est pas déjà une forme de fiction? Pour le dire autrement, quelle est la part de vérité, quelle est la part de subjectivité dans la façon dont vous racontez la vie de votre mère ici?
Ben, c'est-à-dire que pour moi, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut réussir à dire. Évidemment, ma mère, qui est présente dans Finir avec Eddie Bellegueule, c'est pas du tout la même mère qui est dans Combat et métamorphose d'une femme. Mmh. Et dans le premier, je décris une mère qui est plutôt dure, une mère qui est plutôt, avec qui je suis plutôt en conflit. Alors que là, dans le nouveau livre, je raconte l'histoire d'une mère qui s'ouvre, une mère qui se libère, une mère qui essaye de me comprendre.
Et que vous finissez par aimer, enfin, finissez non, le verbe est mal choisi, mais que vous aimez à votre manière.
Ben, oui, une forme de... Cette photo, elle est drôle. Une forme de compréhension mutuelle qui s'instaure entre elle et moi et qui est pas la même histoire que j'essaie de raconter. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, dans la même histoire, il y a tout un ensemble de réalités qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer de comprendre. Là, il y aurait mille manières de raconter ce qui se passe sur ce plateau. Si je place ma caméra sur vous, je montre pas la même chose que si je place la caméra sur nous trois. Et ça veut pas dire que c'est des inventions ou des fictions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a stratégiquement quelque chose de différent à dire. Qu'est-ce que je vais réussir à dire là? Qu'est-ce que je vais réussir à montrer là? Et moi, c'est comme ça que j'essaye de faire. Et...
C'est une bonne définition de la littérature, ça, justement, non?
Oui, exactement. Et puis aussi,
cette littérature que vous détestez. Vous la pratiquez, en réalité.
Je la pratique. Je pratique ce que je déteste. Ouais, c'est étonnant. Mais c'est aussi que la relation avec ma mère a beaucoup changé. Comme vous le disiez, je me suis beaucoup rapproché d'elle.
Et évidemment, elle-même s'est métamorphosée. Hein, la libération a eu lieu. On peut raconter brièvement aussi que cette libération l'a conduit presque... Est-ce que vous diriez que ça l'a conduit, comme vous, à changer de classe sociale?
Non, parce que hélas, les frontières de classe sont trop dures à franchir. Et ma mère, même si elle s'est libérée à 40 ans, elle n'a pas pu d'un seul coup s'inscrire en études littéraires ou philosophiques à la Sorbonne. Où elle a pas...
Même si elle n'est plus dans cette logique misère, de précarité, hein. De misère, d'extrême pauvreté que vous décrivez au début du livre, lorsqu'on referme le livre.
Oui, elle a réussi à se sortir de ça, de cette situation comme ça de misère, mais à l'intérieur d'un monde comme ça où les choses restent délimitées, mais en étant quand même une femme beaucoup plus libre. Et elle est partie à Paris, elle a rencontré Catherine Deneuve, elle s'est mise à...
C'est complètement fou, cette scène. Alors c'est un peu grâce à vous.
Un jour, j'étais sur un tournage où j'étais invité à assister à un tournage de film où il y avait Catherine Deneuve, et qui jouait dans le film, qui était le film de Kore-eda, qui s'appelle La Vérité, avec Juliette Binoche aussi. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu veux que je te présente à Catherine Deneuve? Donc j'étais un peu intimidé, mais j'ai dit oui, bien sûr. Et je suis allé voir Catherine Deneuve, et j'ai dit à Catherine Deneuve, ma mère, qui maintenant s'est totalement libérée, qui s'est affranchie de sa vie d'avant, vit à Paris, est une femme heureuse, et elle habite très près de chez vous, parce que je savais où habitait Catherine Deneuve, on me l'avait dit. Et Catherine Deneuve m'avait dit, j'irai voir votre mère. Mmh. C'est une scène que je raconte dans le livre. Je pensais que Catherine Deneuve m'avait dit ça comme on peut le dire quand on ne sait pas trop quoi dire à des gens qu'on ne connaît pas, comme du small talk, comme on dit. Et trois ou quatre jours après, ma mère m'appelle et elle me dit « Devine qui est venue me voir, Catherine Deneuve. » Elle m'a proposé de fumer une cigarette avec elle. Elle m'a posé des questions sur moi, sur ma vie. Et tout à coup, cette scène pour ma mère devenait comme le symbole de sa libération, le symbole de sa métamorphose.
Olivier Bourdeau, quel regard portez-vous sur la lecture du livre d'Édouard Louis?
Alors écoutez, toute proportion gardée, et puis sans parler du début, le titre est incroyable, et très honnêtement, j'ai regretté de ne pas l'avoir choisi pour mon roman, parce qu'il s'agit de combat et de métamorphose d'une femme.
Ça pourrait être le titre de votre livre, aussi, c'est vrai.
Oui, voilà, on pourrait changer les titres. Enfin, vous ne pourriez pas l'appeler Florida. Mais la fin m'a beaucoup touché, parce que Sans rentrer dans le détail, ma mère a changé et j'ai découvert une nouvelle mère il y a 5 ans de ça. J'ai découvert une mère qui avait du caractère, qui avait de l'humour, qui était désormais libre. Et j'ai trouvé que ça se manifestait dans certains, retrouver la féminité, se maquiller, etc. Et je ne pensais jamais connaître ma mère de cette manière-là. En fait, j'ai découvert une seconde personne il y a 5 ans et j'ai été assez touché de la fin parce que j'ai constaté qu'il y avait des points communs, le fait de devenir coquette, le fait d'aller dans de nouveaux endroits, de regarder le monde différemment. Et ça m'a évidemment beaucoup touché parce que c'est quelque chose de bouleversant à observer.
On va revenir tout à l'heure sur Florida, sur Elisabeth, et puis sur ce culte du corps, de la performance qui mène jusqu'à être une performeuse. Combats et métamorphoses d'une femme, donc le titre du nouveau livre d'Edouard Louis. Il sort aux éditions du Seuil demain. Alors, en lisant votre livre, je me suis rappelé d'un livre que j'ai lu il y a quelques semaines, et qui est le vôtre, Caroline de Mulder, et qui est votre cinquième roman, Manger Bambi. Et en le lisant, j'ai pris une claque. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Livre paru dans La Noire chez Gallimard. C'est l'histoire d'un gang de filles. Elles ont 15 ans, bientôt 16 pour Bambi, qui est l'héroïne de cette histoire, la meneuse. Un gang de filles qui pratique ce que l'on appelle le sugar dating, entre autres, et puis qui explose de colère face à la vie. J'ai trouvé aussi cette hargne. Mais alors avec un style très très différent, parce que votre roman, Caroline de Mulder, est à la fois sombre et très beau, il est très cru et très froid, presque glacial de temps à autre, quelque part entre Baise-moi de Virginie Despentes et puis La Fureur de Vivre, mais avec des James Dean en ado de banlieue. Et puis c'est aussi un roman sur un sujet qui est un sujet dont on parle peu, un peu tabou, la violence féminine, est pratiquée ici par des très jeunes filles de 15 ans. La grande réussite, c'est le style. Écriture brute, tranchante, qui colle alors vraiment aux mots d'aujourd'hui des jeunes de 15 ans et de banlieue. Faisons les présentations, si vous voulez bien. Qui est-elle, Bambi, 15 ans, et comment se retrouve-t-elle meneuse d'un gang de filles?
Alors effectivement, Bambi, c'est une fille d'un milieu défavorisé, mais qui a décidé de s'en sortir. Et donc elle va renverser la donne, notamment en fréquentant ces sites de sugar dating, où en réalité...
On va expliquer ce que c'est tout de suite, hein, le sugar dating. De quoi s'agit-il?
Alors, le sugar dating, c'est en fait une pratique, ou plus ce sont des sites de rencontres qui mettent en rapport des messieurs bien installés dans la vie, assez riches, avec des jeunes filles, des très jeunes filles, quelquefois beaucoup d'étudiantes, de plus en plus d'étudiantes d'ailleurs en France. Et voilà, en fait, c'est
le but, c'est un joli... quand même clairement...
D'être entretenu.
Oui, voilà, d'être entretenu.
D'être entretenu et... alors les fondateurs de ce type de site disent que ça n'est pas de la prostitution. Mais pour y avoir fait un tour, hein, donc, parce qu'effectivement, pour les besoins du livre, je me suis fait un profil baby et un profil daddy. Et donc ça permet
C'est-à-dire à la fois la proie... Comme si vous étiez
homme.
Ce vieil homme, et à la fois l'appât, c'est-à-dire la jeune fille rentre dans le jeu pour séduire et se faire entretenir. Qu'est-ce que vous avez découvert en enquêtant? Parce que j'ai bien compris que ce roman naît d'une enquête.
Écrire un roman, pour moi, c'est toujours une enquête d'abord aussi. Hein, donc, ce que j'ai découvert d'un côté comme de l'autre, c'est quand même une réalité qui est assez sinistre. Et donc Bambi, qui a bien étudié cette réalité-là, elle aussi, donc elle décide de renverser la donne et au lieu de se laisser séduire, entretenir, elle décide de braquer des messieurs qu'elle va attirer dans une sorte de piège.
Les braquer et les plumer.
Exactement, et les humilier.
Est-ce que c'est... trois choses très différentes. Hein, prendre de l'argent, mais il y a aussi cette dimension qui est la dimension de l'humiliation. Comme si pour s'en sortir, il fallait qu'elle exerce à son tour une violence qui n'est pas simplement la violence physique, mais une violence mentale. C'est ça qui lui permet, à elle, d'entreprendre une métamorphose ?
Oui, effectivement. Donc, mon livre fait écho d'une manière inversée au livre d'Édouard Louis. C'est vrai que on parle beaucoup de la violence des hommes sur les femmes, mais assez peu de cette violence féminine et de la violence des femmes. Et pour moi, c'est priver les femmes d'une partie de leur humanité.
C'est-à-dire ? Oui, de ne pas parler de la violence des femmes ?
Oui, la violence, elle est constitutive. Alors, ce n'est pas forcément le côté le plus beau de notre humanité, mais elle est constitutive de notre humanité, à nous aussi, les femmes.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'exploration, un, de cette violence féminine, et deux, à travers des jeunes enfants, car en réalité, elles ont 15 ans, elles veulent à tout prix, d'ailleurs, rester mineures, elles ne veulent pas grandir, elles veulent se libérer du poids de la société et de la misère.
Alors effectivement, il y a beaucoup de formes violentes, beaucoup de formes de violence féminine, hein, parce que donc, j'ai fait un travail là-dessus avant de commencer à écrire. Il y a les folies à deux, il y a les infanticides, il y a les empoisonnements, etc. Mais je me suis arrêtée sur les gangs de filles, parce qu'effectivement, c'est un phénomène contemporain. J'ai voulu me plonger là-dedans, me plonger aussi dans ce langage qui est une sorte de langage parallèle. C'était pour moi une exploration, une aventure très intéressante.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est pas juste l'histoire d'un gang de filles. C'est elle qui raconte dans la... Enfin, il faut être bilingue hein, pour lire votre livre, Caroline
quand même
de Mulder.
Pas, quand même
mais
pas.
On devient très rapidement, dès la page 2, on est bilingue français Jones. Bon, Jones des banlieues est particulièrement en colère. Parce que c'est ça, ce sont des bombes à retardement aussi, vos filles. Est-ce qu'il y a un rapport entre le langage et la colère et la vengeance ?
Oui, je pense que très clairement, ce langage qu'elles utilisent est une manière de se distinguer du reste du monde, est une manière aussi... De rester entre elles, d'empêcher qu'on accède à elles. Oui, il y a très clairement l'utilisation du langage, ça en fait une sorte de petite secte, d'une certaine manière, même si, il me semble qu'on arrive quand même à les comprendre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre pour lequel il faut être bilingue.
Oui, mais encore une fois, on le devient assez vite. Et je dis bilingue au même sens, d'ailleurs, de cet argot des années 60 qu'on trouvait dans les livres de Simonin ou de Michel Audiard. Est-ce qu'il y a justement, un peu de la même manière aujourd'hui, quand on a besoin d'écrire en permanence ou de dire « il pleut sa race », une poésie de l'argot ? Et encore, là, je suis dans le soft.
Oui, absolument. Alors, la manière de parler, elle est toujours constitutive du personnage. Hein, parce que la manière de parler, c'est la manière de sentir, c'est la manière de penser, c'est la manière de vivre. Et donc, effectivement, là, avec ce langage... ce langage ado, argot, très populaire. Il n'y a pas seulement un vocabulaire, il n'y a pas seulement un niveau de langue, mais il y a aussi un rythme, une scansion, une musique. Et pour moi, il s'agissait autant que de rendre la réalité de cette langue, de rendre sa poésie. Alors c'est une poésie qui est un peu dure.
Poésie du bitume,
voilà.
De l'asphalte.
Et exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le train pour venir ici, j'étais pas loin d'un garçon qui était assis à quelques sièges de moi et j'étais très contente de voir qu'en fait, il parlait comme Bambi, ou plutôt que Bambi parlait comme lui d'une certaine manière.
Édouard Louis, vous avez souvent écrit dans vos livres que vous déploriez l'absence de langage populaire dans la littérature. Est-ce que justement, il faudrait... aujourd'hui, comme le fait Caroline Mulder, coller davantage à ces nouveaux parlers qui ne sont pas du tout les parlers académiques.
Oui, moi je pense qu'il y a toute une histoire justement de la littérature qui a consisté à faire rentrer les parlers populaires et les parlers comme ça oraux en littérature. Pasolini, c'est un grand exemple, qui a écrit les Ragazzi avec le parler des jeunes garçons de Rome à ce moment-là. Et effectivement, comme vous étiez en train de dire, c'est un travail qu'il faut recommencer à chaque fois puisque par définition le langage évolue. Ouais. Mais je trouve que c'est une très belle idée à chaque fois qu'on commence à faire de la littérature de se dire quel langage n'est pas là, quel langage est habituellement exclu de l'espace littéraire et de l'inclure d'inclure dans la littérature, de donner à entendre des voix, de donner, puisque comme vous disiez aussi, les voix, c'est des manières d'être, c'est des manières de penser. Et au fond, quand on décrit une situation, si on la décrit sans son langage, on la décrit qu'à moitié. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans l'idée de presque commencer, ça rejoint ce que je disais avant sur la méfiance à l'égard de la littérature, qu'est-ce qui n'est pas là en littérature ? Moi, je pense que Toni Morrison a écrit sur les Noirs parce qu'elle se dit, qui n'est pas là en littérature ? Moi, j'écrirai sur les Noirs. Marguerite Duras s'est dit, les femmes, les fous sont absents de la littérature, j'écrirai dessus. Et alors, est-ce qu'il y a des langages qui sont absents de la littérature ? Et à ce moment-là, comment on fait pour les faire entrer ? Et au fond, c'est presque le meilleur hommage qu'on puisse rendre à la littérature, c'est de faire des coups de force contre la littérature, d'agresser la littérature. Mais
c'est ce que vous faites, un coup de force contre la littérature, en employant à la fois ce langage, qui est un argot que vous redéployez, et puis des gens qui ne sont pas là, parce qu'elles ne sont pas là, hein, les gangs de filles. Alors il y a eu Joyce Carol Oates, oui, d'une manière très différente, mais on n'en parle pas de ces jeunes filles.
Alors pour moi, d'abord, c'est pas un acte de violence. Pour moi, écrire, c'est un acte d'amour. Et moi, j'adore la littérature. Et c'est bien comme ça. Il y a un équilibre. J'adore la littérature. La littérature m'a toujours sauvée. Construire un bel objet avec des mots, j'adore ça. Même avec des mots qui sont un peu décalés, qui sont un peu différents. Oui. Ça me plaît.
C'est finalement dans l'héritage de ce que faisait Villon. Presque.
Ah oui, un peu, hein, effectivement.
Je reviens quand même, et alors ça m'a beaucoup frappé, parce qu'on voit la même chose à l'œuvre chez vous, Olivier Bourdeau. Le corps est l'objet de la métamorphose à partir du moment où on décide de faire ce que l'on veut de son corps. Et là, en l'occurrence, Bambi et ses deux amis utilisent leur corps, leur charme, comme si ça pouvait être l'outil qui les libère. Ça, c'est aussi quelque chose de très...
C'est pas un outil, c'est un piège. Leur corps est un piège. Et pour moi, Bambi et ses copines, il y a un refus du corps. Il y a un refus du corps, un refus de la féminité qui est très clair. D'ailleurs, elle s'appelle Mon frère.
Oui,
entre
Mon frère,
elles.
Oui.
Et de ce point de vue-là, en fait, effectivement, nos personnages se répondent... se répondent un peu, hein. Ce refus du corps, alors d'une manière tout à fait différente.
Et pour des raisons différentes, mais il y a une logique un peu identique, voisine.
Vous pointez tous les deux l'idée aussi que le corps est à l'œuvre dans une société de consommation qui est de plus en plus dure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps n'a plus le même statut qu'il y a une vingtaine d'années. C'est rentré presque comme une... fait partie de ce qu'on consomme.
Oui, c'est effectivement le corps un peu viré à l'objet de consommation et à l'objet qui consomme du parfum, des fringues, toutes ces jolies choses qui séduisent beaucoup ces filles qui voient une sorte de clé vers le bonheur, justement.
Qu'est-ce que c'est le bonheur et la liberté pour ces filles, pour ces jeunes filles qui, alors ça c'est le ressort du polar, parce que c'est aussi un très bon roman noir. Dès le départ, sa copine Leïla lui dit « Attends, ça va mal finir ». Et alors là, quand vous avez un des personnages qui vous le dit, vous savez que ça va arriver. La question c'est comment, qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, je ne vous dis rien. Elles savent que ça ne peut pas continuer comme ça, que ça va mal finir, et elles le font quand même.
Ah, Bambi, en revanche, elle est très sûre de son coup, hein, elle est très sûre de réussir. Après, on verra si elle y parvient ou pas.
Qu'est-ce que c'est le bonheur ou la liberté pour elle ?
Alors, elles ont justement une image du bonheur qui est totalement factice. Hein, pour elles, le bonheur, c'est de faire le million, ce sont les plages en Thaïlande. En fait, elles sont remplies de rêves bidons qui... Nous, on sait que ça mènera pas au bonheur, mais elles y voient une sorte d'horizon rêvé.
Il y a un personnage de mère également, comme chez Édouard Louis, conditionné sans doute, même si on ne connaît pas toute son histoire, tout son passé. Mais là aussi, c'est la violence féminine que vous mettez en scène, exactement à l'opposé de vous, finalement, Édouard Louis. C'est une mère qui bat Bambi, des gifles
oui,
pleuvent, et puis alors, pas des petites. Hein.
C'est effectivement une mère abusive et je pense que ça aussi c'est une autre forme de violence chez les femmes. Ça existe, les mères abusives.
Mais pour quelle raison avez-vous envie de travailler sur ces sujets dont on ne parle pas ? Les mères abusives, la violence féminine?
Justement, parce que ce sont des choses dont on n'a pas encore parlé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vide. Il y a quelque chose à en dire qu'on ne dit peut-être pas suffisamment. Alors, c'est vrai que le rapport de Bambi à sa mère, elle est assez particulier parce que la mère, elle est abusive. Mais Bambi va... c'est ce qui fait aussi un peu la lumière de ce personnage. Elle va jusqu'au bout essayer de sauver sa mère, elle va essayer de protéger sa mère. Et c'est ce qui fait que ce personnage, qui a priori n'est pas forcément sympathique, a quand même des côtés très tendres, hein, à la fois dans son rapport à sa mère et dans son rapport à ses amis, parce qu'il y a une sorte... elle est inconditionnelle en amitié, malgré tout.
Vous choisissez de travailler aussi sur les extrêmes, l'extrême de la violence féminine, l'extrême de la mère abusive, et puis l'extrême de cette jeune fille qui n'aime rien ni personne, au point qu'évidemment on se dit mais ça ne va pas marcher, on ne va pas s'intéresser à son destin, et on est captivé jusqu'à la dernière page. C'est quoi le tour de force, le secret en littérature?
Alors, pour moi, l'idée, ça n'est jamais a priori de construire un personnage sympathique. Mon idée, c'est d'essayer de construire un personnage qu'on ait envie de suivre. Donc, évidemment, on ne peut pas approuver ce que fait Bambi, mais en revanche, ce que j'espère, c'est que le lecteur arrivera à la comprendre, à comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait.
Expliquer, comprendre, c'est ce que doit faire la littérature ou pas ?
Oui, je trouve que c'est plutôt une belle mission. Oui.
Et effectivement, on comprend. Je ne dirai rien de la fin, juste pour redire que Manger Bambi, qui vient de paraître dans La Noire chez Gallimard, fait partie de ces livres que vous n'allez pas lâcher. Combats et métamorphoses, cas pratique maintenant. Tiens, voici une nouvelle librairie. Eh oui, elle vient d'être créée et inaugurée entre deux confinements, le 5 janvier dernier, à Mérignac, près de Bordeaux. Alors, ça valait bien... un déplacement, ça. Tiens, la librairie de Mérignac s'appelle désormais le pavé dans la marge. Joli titre. Elle a ouvert grâce à l'énergie et à la volonté de Julie Cigugno. Portrait de cette combattante, signée, comme d'habitude, Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez.
Imaginez une ville de 70 000 habitants sans librairie indépendante. C'était pour moi une véritable anomalie. Un écrivain, à travers ses mots, il raconte une époque. Il raconte des injustices et nous interpelle tous dans nos vies. Il y a un écho qui se passe. Donc je dirais toujours aux gens, lisez. Ça va vous faire vibrer. La lecture, elle va vous amener dans des endroits incroyables. Et quand vous retrouverez après vos proches, ça fera partie de vous. Un livre organique, « Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot » de Mika Biermann. Tout dans ce livre est charnel, tout est brut, tout est dans le ressenti du corps. Je l'ai lu comme un ensauvagement, comme une nécessité pour une femme contrainte dans une époque qui ne lui était pas favorable et contrainte, à mon sens, du fait de son talent. Mon objet littéraire non identifié, c'est « Dossier de lumière » de Mike McCormack. De politique, on parle d'ingénierie, on parle de la vie familiale. Et la prouesse de l'auteur, c'est d'arriver à amener toutes ces digressions sans qu'aucune ponctuation ne soit nécessaire. Tout a été parfaitement encastré, enchâssé. On l'accompagne tout au long du récit comme dans un seul souffle. Mon livre pour une nuit d'insomnie, c'est Une longue impatience de Gaëlle Josse. C'est un livre qui raconte surtout comment une mère doit savoir apprivoiser son angoisse. Ce livre de Gaëlle Josse, mais comme tous les livres que j'ai lus de Gaëlle Josse, à chaque fois je les ai lus comme des grandes leçons de vie, mais sans prétention et complètement à notre portée. Mon livre nécessaire, c'est Le temps des béguines, d'Aline Kinner. La force du livre d'Aline Kinner, c'est de raconter l'histoire de ces femmes qui sont une anomalie dans leur époque. On est au Moyen-Âge, elles n'ont pas de tuteur, elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de frère, elles n'ont pas de fils qui dirigent leur vie. C'est un livre nécessaire parce qu'il montre que rien n'est jamais acquis, que tout peut basculer. La déflagration, c'est l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est un livre qui jette les bases d'une certaine façon d'appréhender la vie, d'appréhender l'existence, de se dire que les plats ne repassent pas, qu'il faut y aller, qu'il faut s'emparer de la vie. Nos choix nous engagent, nos choix nous empêchent, mais nos choix sont nos vies.
Voilà, nos choix sont nos vies. Ah bah tiens, ça pourrait être un peu le mantra des personnages de cette émission, de votre mère, Édouard Louis, à vos personnages, Caroline de Mulder, et puis à ceux aussi, peut-être, d'Adeline Dieudonné et d'Olivier Bourdeau. Allons-y, Florida, qui est sorti il y a quelques semaines déjà aux éditions Finitude. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, Elisabeth, qui depuis l'âge de 7 ans écume les podiums des concours de Mini Miss. Elle n'a rien choisi, c'est sa mère qui l'a décidé ainsi, sa mère qui fait d'elle une bête de concours, jusqu'au jour où, évidemment, Elisabeth décide que ça suffit. Et elle n'aura de cesse de se venger de ces années de compétition qui ont détruit son enfance. Cette vengeance, dont je ne vous dirai rien, passera quand même par ce corps qu'on a exhibé beaucoup trop tôt et qu'elle va métamorphoser jusqu'à devenir bodybuildeuse, mais aussi performeuse. Question, quand on veut se venger, détruire l'autre, ne risque-t-on pas l'autodestruction? Alors là aussi, Olivier Bourdeau, hein, combat et métamorphose pour devenir une femme, dans un style, on va y venir dans un instant, hein, comme avec Caroline de Mulder, style radicalement différent de celui de vos deux premiers livres. Est-ce que vous avez hésité longtemps? Est-ce que vous avez hésité tout simplement à vous mettre dans la peau d'une femme et même d'une enfant qui devient ado?
Pas du tout. En pas fait, du tout. Non. Ou sinon, c'est une hésitation qui a duré 7 ans, puisque lorsque j'ai vu le premier documentaire sur les Minimis, que j'ai trouvé effarant, j'ai su tout de suite qu'il y avait un sujet. Il y a un malaise absolu qui se crée en regardant ces petites filles poussées sur les estrades et sur les podiums. Et donc, très très vite, je me suis dit que la malédiction, c'était d'être jugé sur une performance pour laquelle on ne peut rien. Son physique.
Oui, c'est-à-dire que vous dites, finalement, comment peut-on progresser quand on est jugé uniquement sur son physique?
Elle n'a aucune marge de progression. Sa mère a des leviers. Ce sont le maquillage, le fait d'être plus sexy, l'habillement. Elle aura la pauvre a une oreille légèrement décollée. Donc sa mère pense que si elle ne gagne pas ses concours, c'est à cause de cette oreille. Donc on va recoller cette oreille. Et... elle vit une euphorie pour la première victoire et ensuite, elle ne cesse d'être déçue et de décevoir sa mère. Et c'est tout le cheminement. C'est-à-dire que plus ça va, plus la mère active des leviers et plus ça devient grotesque et plus elle en souffre et plus elle déteste tout le monde. Et forcément, elle va détester son corps puisque c'est son corps qu'on regarde et que tout le monde note, en quelque sorte. Le corps est noté. Sa performance n'est pas jugée sur un champ, sur un salto arrière, c'est uniquement son corps. Donc elle va se détester, elle va détester son corps et détester sa mère. Et c'est le début d'une vengeance.
Vous écrivez que lorsque l'on est dans une salle, un concours de Minimis, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le podium et les Minimis, c'est la salle et le visage des parents. Qu'apprend-on en regardant les parents?
Mais c'est terrifiant. Les pères sont en train de filmer avec un caméscope, les mères se mangent les ongles, elles commentent, la tête bouge, on sent que la performance est jugée immédiatement. Et en fait, au début, Elisabeth se moque du jury, elle ne regarde que sa mère. Et puis au bout d'un moment, elle arrête de regarder sa mère parce que justement, ça devient vraiment angoissant. Et comme elle ne gagne plus du tout, quand elles se rendent dans ces châteaux moches que sont les salles polyvalentes, il y a une bonne ambiance, on a encore la possibilité de gagner. Il y a une osmose entre toutes les deux, elles ont un projet commun. Mais en rentrant, après cette défaite, la mère ne la regarde même plus dans le rétroviseur. Enfin, c'est un corps mort qui est exposé à l'arrière de la voiture et qui attend.
Vous écrivez page 35, ils ont des trucs à régler, les parents. Mais comme ils n'ont pas le courage de les régler seuls, ils chargent leur fille de le faire. La fille, elle remède à leurs problèmes.
Oui.
Là, en l'occurrence, et contrairement peut-être au cas de Caroline de Mulder, votre héroïne est une victime. Est-ce que vous employez ce mot-là? Victime des problèmes non réglés des parents?
Elle l'emploie à un moment, évidemment. Je veux dire, je parle du bodybuilding aussi. Les gens sont majeurs et vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis favorable à une liberté totale. Chacun fait ce qu'il veut. Là, en l'occurrence, on est une victime dès lors qu'on n'a pas le choix et qu'on se retrouve exposé sans avoir donné son accord, voilà, et exposé tous les week-ends avec des tenues de plus en plus sexy, grotesques, alors que
hypersexualisation du corps des enfants. Pour
c'est
les
le cas. Et en plus, Elisabeth est une jeune fille intelligente qui a de bons résultats scolaires, mais pour la mère, ça passe vraiment au second plan. Moi, j'ai pas décidé de traiter de l'histoire d'une mère tyrannique. c'est tout simplement l'observation de nombreuses heures de documentaires concernant les minimis qui montrent que ce sont toujours les mères qui font ça.
Essayons de comprendre, qu'est-ce qui est à l'œuvre chez cette mère, en l'occurrence, on ne va pas généraliser, mais chez la mère d'Elisabeth, qui pousse sa fille à devenir la meilleure des minimis. Est-ce que c'est son désir de célébrité contrarié, ou est-ce que tout simplement, elle s'ennuie dans la vie ?
Ben là, dans son cas, c'est de l'ennui. Dans beaucoup de cas, c'est une célébrité contrariée. On le voit avec les pour le coup, dans le sport, ce sont souvent les pères qui poussent leurs enfants. Ça donne des grands champions, mais ce sont souvent d'anciens tennisman contrariés, d'anciens footballeurs contrariés. Mais comme je le disais, les enfants en faisant du sport ont une marge de progression. Ils sont capables de montrer leurs efforts. Là, ce n'est pas le cas d'Elisabeth. Pour la mère d'Elisabeth, c'est de l'ennui. En revanche, comme cette histoire est extrême d'un bout à l'autre, j'ai voulu mettre une part de réel, une seule anecdote est réelle dans le roman, et c'est la plus atroce et c'est la plus abjecte.
Laquelle ?
Elle se trouve à la fin. C'est une mère qui s'est accusée... Alors, je ne dévoile pas la fin, mais c'est une mère qui s'est accusée à tort d'avoir botoxé sa fille, d'avoir négocié une apparition dans une émission de télé contre 10 000 dollars. Et elle sort une phrase complètement incroyable. Elle dit Courtney me remerciera sans fin. Lorsqu'elle sera comédienne et mannequin célèbre, elle me remerciera sans fin. C'est la phrase telle qu'elle est. Et c'est la phrase la plus atroce du livre, et c'est la seule qui est tirée de la réalité.
Qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que la littérature vient raconter, j'ai pas dit dire, mais raconter précisément à partir du réel, à partir de ce réel-là. Qu'est-ce que la littérature peut nous apporter de plus ?
Bah, écoutez, comme je vous le dis, on part d'un sentiment qui, pour le coup, là, est un malaise. Et on tire sur ce malaise et on construit une histoire. Voilà. Et on fait en sorte de partager ce malaise avec le lecteur.
Alors, pour partager le malaise, vous avez une idée simple, mais ça, j'ai l'impression que c'est vous. C'est la vengeance. C'est-à-dire qu'Elisabeth, cette jeune fille exhibée sur les podiums, dès qu'elle va devenir adolescente, à 12 ans, décide de se venger. Et ça passe par le corps, comme chez vous, Caroline de Mulder. Mais là, il s'agit de déformer son corps, de devenir obèse.
Voilà, alors, en fait, elle, par le biais de rendez-vous avec le psy, elle arrive à obtenir que le psy conseille à ses parents de l'éloigner d'eux. Et quand elle arrive en pension, elle est complètement désaxée. Elle n'a jamais eu d'amis, en fait. Le fait d'être minimis l'a complètement éloignée d'une vie amicale, d'une vie sociale. Et donc, elle fonce sur son nouveau petit ami, qui est le distributeur automatique de confiserie. Voilà, donc elle est très bonne à l'école, ce qui lui attire aucune sympathie. Et elle est belle, ce qui lui attire encore moins de sympathie. Et elle décide de déformer ce corps avec le gras, les bulles de coca, les canettes, les confiseries. Et donc là, elle commence déjà à se venger de ce corps qui est une prison. Car en fait, c'est l'histoire d'une vengeance contre son corps et ensuite contre sa mère.
Comment se libérer, comment s'affranchir de soit ce corps, soit ses ennuis.
Eh bien, écoutez, soit en abandonnant l'idée de se servir de ce corps, soit, comme l'a choisi Elisabeth, de développer ce corps et le pousser dans ses retranchements. En fait, elle tombe sur un artiste qui est photographe et qui lui dit, qui est photographe et bodybuilder, et cet artiste lui dit, si tu te mettais au bodybuilding, je vais photographier ta métamorphose. Je vais faire une série. Chaque jour, je prendrai une photo de toi après tes séances d'entraînement. Et tout au long de l'année, on va faire une série et ton corps va devenir une œuvre d'art. Donc son corps, qui était un poids mort, devient une œuvre d'art. Là, c'est une période de bonheur pour elle, puisqu'elle a trouvé un ami, elle a trouvé un complice, elle a trouvé un rôle qui n'est pas... c'est elle qui le décide. Elle devient le sujet, mais un sujet... glamour d'un artiste, donc c'est assez valorisant pour elle, sauf que au bout d'un moment, elle va décider de passer à un autre stade.
Alors on ne dira rien de cet autre stade, simplement reposons la question de la volonté. Est-ce qu'il suffit d'avoir la volonté pour devenir quelqu'un d'autre ?
Je pense, oui.
Vous pensez-vous ?
Oui, Oui, je...
Mais là, c'est une volonté un petit peu aidée par des trucs qui s'appellent les anabolisants, hein, pour le devenir bodybuilding, ou alors pour devenir minimiste, les fossiles et les soutiens-gorge ampliformes.
En fait, il y a toujours des artifices. Elle se lance, à un moment, elle veut devenir championne de bodybuilding, et elle se lance dans ça, et elle veut absolument gagner pour remonter sur le podium et pour montrer à sa mère qu'elle est remontée sur le podium, mais pas... d'une manière passive, mais d'une manière volontaire.
Et pas forcément en étant belle, mais en ayant déformé aussi à nouveau, ce corps.
Ce corps dans lequel elle est emprisonnée. Et là, elle a le sentiment un peu vain de prendre son destin en main.
Un mot sur cette phrase du philosophe en poncho, comme vous l'appelez. Ce philosophe cinématographique qui a dit « Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. »
Voilà. Et elle, en l'occurrence, a un pistolet chargé et elle creuse en même temps.
Donc, quel est le sens profond de cet aphorisme de Clint Eastwood servi par Sergio Leone ? C'était le bon, la brute et le truand ?
Bah là, pour le coup, c'est clairement la position de dominant et de dominé. Le truand a chopé le trésor et c'est celui qui a le pistolet qui chope le trésor. C'est le patron.
Caroline de Mulder, quel regard avez-vous porté sur le livre d'Olivier Bourdeau? Il y a énormément de points communs également, on l'a vu, hein, la violence, le corps, la performance.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ponts, effectivement, entre nos deux romans qui sont pourtant extrêmement différents. Mais moi, déjà, le sujet m'intéressait parce que j'ai adoré le livre de Joyce Carol Oates sur le sujet « Petite sœur, mon amour ». C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Et donc, je me suis demandé comment vous l'aborderiez-vous. Et effectivement, cette idée d'une minimiste qui se rebiffe avec aussi effectivement ce regard décalé, j'ai trouvé ça vraiment un angle d'approche très, très intéressant.
Merci beaucoup.
C'est finalement Joyce Carol Oates qui vous rassemble, hein. Confession d'un gang de filles pour vous, Caroline de Mulder, qui était un de ses romans, et puis Petite sœur, mon amour pour...
Alors moi, je suis désolé, mais je prends le compliment et on m'en a beaucoup parlé, mais j'ai refusé de le lire pour n'avoir aucune influence extérieure. Donc mon éditrice m'a dit lis-le avant la promo et je suis un mauvais élève.
Mais non, vous avez peut-être bien fait. En revanche, vous avez bien lu Oscar Wilde et j'aimerais qu'on en parle parce qu'évidemment, cet épigramme que vous avez choisi m'interroge. Édouard Louis, écoutez-le, cette phrase d'Oscar Wilde. Les seules personnes réelles sont celles qui n'ont jamais existé. Et il va plus loin, hein, Oscar Wilde.
Oui.
Ah, bah, on y va ?
Allons-y.
Ah bah, il y a ceux qui ont un pistolet, ceux qui creusent.
Hein. Voilà, exactement.
Le mien est chargé grâce à Oscar Wilde. Et si un romancier est assez vil, pour aller chercher ses personnages dans la vie de tous les jours, Édouard Louis, il devrait au moins feindre de les avoir créés lui-même, au lieu de se vanter de les avoir copiés.
Oui, bah on est très différents, Oscar et moi, à qui je rends hommage. On a des choses qui nous rassemblent et d'autres qui nous rassemblent moins. Mais pourtant, j'aime bien, je suis très marqué par la première partie de l'aphorisme, quand il dit les seules personnes qui existent, qui sont réelles. Vous pouvez le relire, je ne sais plus exactement la phrase.
Les seules personnes réelles sont celles qui n'ont jamais existé.
Celles qui n'ont jamais existé. Oui, je pense que c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a réussi à accomplir ce qu'on est vraiment à un moment donné de sa vie? Est-ce qu'on est la personne qu'on est? Je pense qu'on vit tous avec une frustration de jamais être la personne qu'on est et la personne qu'on voudrait être. Et au fond, la réalité de ce qu'on est, elle existe dans une forme de mur, de virtualité comme ça, qui est jamais totalement accomplie. Je dis un moment à propos de ma mère, elle avait toujours l'impression qu'elle avait une autre vie qui l'attendait quelque part. Et qu'au fond, sa réalité, c'était une réalité qui n'était jamais advenue. La vie qu'elle méritait était une vie qui n'était jamais advenue.
Alors ça aussi, c'est présent chez vous tous. C'est-à-dire que tous vos personnages ont le sentiment qu'il y a quelque chose de mieux qui les attend quelque part. Et comme si c'était ça, d'ailleurs, qui leur permettait de continuer le combat, de se libérer, d'aller vers les métamorphoses. C'est ça, c'est vrai ?
Oui, mais je pense que c'est pas que les personnages. On a tous cette espèce d'horizon un peu rêvé. Je pense que c'est très humain, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant avec les personnages, quels qu'ils soient, c'est de brasser l'humain, c'est d'essayer de trouver
mais on peut le perdre.
Ce qu'ils ont d'universel.
Et ils ont tous un moment, et alors votre Elisabeth aussi, ils pourraient bien le perdre à un moment.
Oui, tout à fait. Mais il y a une citation de Sainte-Thérèse d'Avila dans le texte qui est « Plus de larmes seront versées sur les rêves qui sont exaucés que sur ceux qui ne le sont pas. »
Sur les prières exaucées.
Les prières exaucées.
Puisque ça renvoie au titre également de Truman Capote, « Prières
exaucées ». Exactement, qui est son livre le plus cynique et son chef-d'œuvre. C'était un peu son livre proustien qu'il n'a pas terminé.
On lit sur la littérature, par ailleurs.
Ouais. Et plus de larmes seront versées sur les prières exaucées. Oui, parfois on se fixe un objectif qui est censé être le paradis, l'absolu, et quand on y arrive, finalement c'est assez décevant, et donc on s'écroule. Enfin, il y a plein de gens qui, en atteignant leur objectif ultime, après des années de combat, se retrouvent à faire une dépression. C'est quand même assez triste. Je ne veux pas dire par là qu'il faut que les gens arrêtent de poursuivre leurs rêves, mais parfois l'atteindre rend les choses mélancoliques et fait verser des larmes.
Florida, le nouveau roman d'Olivier Bourdeau, c'est aux éditions Finitude. Olivier Bourdeau, qui est à peu près le seul écrivain capable de concilier dans un roman Sainte-Thérèse d'Avila, Clint Eastwood et Truman Capote.
Voilà. Merci.
On va parler de Kérosène, Adeline Dieudonné, mais juste avant, tiens, je voudrais vous emmener du côté des classes. Revenez donc, tiens, du côté de votre année, je sais pas moi, de lycée, de collège, dans le cadre de notre grand concours de lecture à voix haute. C'est Yann Kefelec, l'écrivain qui a rendu visite aux élèves de première G5 du lycée Marie Curie, qui se trouve à Nogent-sur-Oise, c'est dans les Hauts-de-France. Et la rencontre avec Yann Kefelec, qui leur donne ses bons conseils, a été filmée, comme d'habitude, par les élèves eux-mêmes.
C'est d'une puissance incroyable, les mots. Chaque mot est un trésor dont on n'a pas idée. Donc, à partir du moment où ils sont bien agencés dans la voix, ils prennent toutes leurs dimensions.
Et je vais vous lire « Afrique, mon Afrique » de David Diop. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants.
Je trouve que tu as une belle voix, déjà une belle prestance. Tu peux augmenter les effets du texte.
Là, j'avoue que la lecture m'a saisi aussi. Il y a des moments où j'ai senti vibrer quelque chose, quoi, involontairement.
On a des frissons.
Exactement, voilà.
Et d'une certaine manière, tu nous prends la main, tu nous dis « je suis là, vous êtes avec moi ».
Je vais lire « Demain dès l'aube » de Victor Hugo.
Alors Victor Hugo, il est génial. Il ne faut pas en faire une espèce de vieux rasoir comme ça, qui a sa statue et qui représente la littérature avec un grand L. Victor Hugo, il est aussi moderne que les plus modernes des écrivains contemporains. Et sa poésie comme celle-là, bon, voilà, elle est de tous les temps.
« Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. » Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Peut-être que tu aurais pu être un tout petit peu plus malheureuse quand tu as dit « je partirai ». Je trouvais que tu disais « je partirai », « oh là, je suis à la bourre, je partirai ». Mais il a rendez-vous avec une absente, voilà, sur un lieu symbolique.
Donc, un peu plus d'assurance dans ce que vous affirmez.
Merci, Imen, c'était bien. Et j'espère que tu vas continuer à lire.
Voilà, les conseils de Yann Kefelec à retrouver en attendant donc la grande finale qui sera diffusée au mois de juin avec plus que 10 candidats parmi les 130 000 et quelques qui cette année se sont inscrits à ce concours de lecture à voix haute. Vous pratiquez la lecture à voix haute les uns les autres? Oui, Caroline de Mulder?
Oui.
Ouais, vous avez besoin d'un gueuloir, vous, avec ce langage soutenu.
Oui, oui, ça permet de voir si le rythme fonctionne.
Le rythme?
Oui, il y a des choses qui passent très bien à l'écrit quand on les relit comme ça, mais qui, quand on lit à voix haute, ne passent plus du tout et qu'il faut changer.
Édouard, oui, vous faites de la scène, alors, en plus sous la direction de Stormeyer, mais est-ce que vous lisez à voix haute vos livres ou ceux des autres ?
Oui, énormément aussi. Je pense que le meilleur éditeur ou la meilleure éditrice qu'on puisse avoir, c'est sa propre oreille aussi. Et moi, je relis beaucoup les textes et comme ça, à voix haute. Et puis dans la nuit, il y a des textes qu'on peut se lire à soi-même et qui sont particulièrement beaux à entendre. On peut se faire la lecture à soi-même aussi. Ouais.
Vous faites la lecture à vous-même ?
Oui, quand je lis Annie Ernaux ou Toni Morrison, j'adore les entendre et je me fais la lecture. Ouais.
C'est quelque chose que j'avais remarqué aussi dans Finir avec Eddie Bellegueule. Il y avait un rythme qui était très beau. Il me semble que je le remarquais. Je me suis dit, il doit relire à voix haute.
Oui, je relis beaucoup à voix haute. Et puis toujours en me posant la question de ce que ce serait de faire un texte sur scène aussi, de le dire à des gens, de l'adresser à des gens. Mais je pense qu'on est... On est nombreux et nombreuses à le faire ici.
Bah vous le faites beaucoup, Adeline Dieudonné. Vous avez même commencé par des textes sur scène, non ?
Oui. Le premier texte que j'ai écrit, Bonobo Moussaka, c'était un texte qui était fait pour la scène, très clairement. Et là, la vraie vie est adaptée au théâtre et je suis sur scène. Donc, alors c'est un exercice qui est complètement différent.
Alors c'est vous qui allez raconter la vraie vie sur scène ?
Oui, c'est moi qui je joue la narratrice. Parce qu'on ne sait pas quel âge elle a quand elle raconte son histoire. Et donc, en l'occurrence, elle a mon âge. Voilà.
La vraie vie, alors que j'avais adoré, comme beaucoup d'autres, succès phénoménal, c'était votre premier roman. Alors là, vous surprenez en changeant vous aussi de registre, tout comme Olivier Bourdeau, même si, je le disais, hein, l'humour féroce et grinçant est toujours là. C'est un roman qui se présente comme un puzzle ou comme un kaléidoscope, au choix. Kérosène, le livre sort demain à l'Iconoclaste et c'est une réussite. Une nuit d'été. Une station-service le long de l'autoroute. Vous voyez un petit peu le tableau ? Si on compte le cheval, mais qu'on exclut le cadavre, 14 personnes sont présentes à cette heure précise. Voilà comment débute cette drôle d'histoire au cours de laquelle nous croiserons notamment des femmes qui se demandent ce qui a bien pu conditionner leur vie actuelle. Alors certaines se battent, d'autres se métamorphosent. Toutes cherchent la liberté malgré la solitude et se retrouvent dans cette station-service au bord de l'autoroute, une nuit d'été. On va commencer par le décor. Qu'est-ce qui vous fascine, Adeline Dieudonné, hormis le dispositif romanesque, dans les stations-service de nuit ?
Une station-service, c'est un endroit dans lequel tout le monde passe. A priori, on va y retrouver vraiment toutes les couches sociales. C'est un endroit qui est absolument utile et nécessaire qui n'est qu'une fonction. Et donc, on va pouvoir croiser pas mal de personnages. Et y a aussi une nuit d'été. Donc, j'avais envie de ça aussi, la chaleur, les corps qui se libèrent parce que peut-être un peu moins habillés. Mmh. Et donc, tous ces gens qui se croisent, tous ces destins qui se croisent, mais sans forcément se rencontrer. Et pour l'écriture du livre, je suis allée effectivement dans une station-service, passer du temps, observer ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il y a de tout.
Ce qui est fascinant, c'est que vous donnez, vous, très rapidement à votre livre, les contours d'un conte où le macabre peut arriver. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est une station-service où il peut y avoir un serial killer, des violeurs, des alcooliques, une violence qui peut à tout moment jaillir aussi.
Oui, mais c'est ça, mais c'est se demander d'où viennent les personnages et où ils vont. Mmh. Et c'est vrai qu'on peut les observer en se disant « Ah tiens, celui-là, ouais, il vient peut-être de tuer quelqu'un » ou « Tiens, cette voiture-là, il y a peut-être un cadavre dans le coffre », on ne sait pas. Donc effectivement, c'est au niveau romanesque, je me suis bien amusée. Oui.
On commence par elle ?
Allons-y.
Allez, Shelley, il y a un cadavre dans le coffre.
Shelley, il y a un cadavre dans le coffre.
Prof de pole dance et blogueuse. Vous écrivez page 18 et ça nous renvoie à ce qu'on racontait des vies banale au départ. Elle se voyait comme un animal évoluant dans un écosystème soumis à la loi du plus fort. Les gagnants, les perdants. C'était simple à comprendre. Et puis tout à coup, elle trucide son mari et elle le charge dans le coffre de sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Shelley, c'est une prédatrice. Donc effectivement, je me suis amusée avec ce personnage de voir qu'est-ce que c'est un personnage qui assume complètement son côté prédateur. C'est-à-dire que pour elle, le néolibéralisme, c'est super. Elle adore ça parce qu'elle est du bon côté, elle est du côté des gagnants, des dominants.
Sourire Édouard Louis. Hein.
Oui, bah oui. il y a effectivement...
C'est un personnage de fiction.
Il en existe.
Hein. Non, mais en plus, c'est le milieu duquel je viens. Donc moi, ça m'intéresse aussi d'observer ça. Moi, je viens de la bourgeoisie, plutôt de la haute bourgeoisie, et donc ça m'intéresse effectivement d'observer ces gens. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ces gens qui assument complètement, en fait, qui vivent super bien. Ils vivent dans leur monde idéal, puisque on est dans un monde où le néolibéralisme a gagné et où a priori ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, eux, ils vivent leur meilleure vie. Et donc, je trouvais ça effectivement intéressant d'observer, d'être un petit peu dans la tête de cette femme qui est du côté des prédateurs, des gagnants et qui ne supporte plus le bruit des chips. Parce que donc son mec mange des chips dans le paquet et ça l'énerve parce qu'elle trouve que justement c'est un truc de bouseux, il faut mettre ça dans un bol. Et donc vraiment, c'est cette nana qui est complètement barrée. Mais de nouveau, je l'ai laissé parler, j'ai laissé sa voix s'exprimer et j'ai presque été aussi surprise que le lecteur au moment où elle décide de le planter parce qu'elle en a marre.
Et ça, on l'apprend dès les premières pages. C'est l'histoire d'une déception ou d'une libération? Parce que, bien sûr, elle est excédée par le bruit des chips mangées à même le paquet, mais il y a autre chose qui l'excède, et vous le montrez très bien, c'est l'auto-apitoiement de son compagnon, qui, alors il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, il n'est pas payé comme il devrait, il travaille, il est incapable, enfin bref. Et en permanence, il est dans la jérémiade. Il gêne.
Oui, mais c'est ça. Mais donc, elle a complètement embrassé les codes de la virilité. C'est-à-dire que pour elle, un mec, ça doit être effectivement une espèce de... D'ailleurs, c'est l'image qu'elle a de lui au départ. C'est MacGyver. C'est le gars qui a son rouleau de scotch et son Leatherman. Il peut tout faire. Et effectivement, au fur et à mesure des années, elle se rend compte que quand même, il gêne beaucoup. D'ailleurs, ça m'a amusée parce que dans votre livre, il y a ça aussi avec votre héroïne qui devient dingue. Dès que quelqu'un se met à pleurer, dès qu'on montre un signe de faiblesse, elle devient folle et elle vrille complètement. Et donc oui, avec son mari, c'est ça, elle ne supporte pas la faiblesse. Parce que pour elle, elle est une gagnante, et elle veut s'entourer de gagnants et elle veut que son mec soit presque encore plus un gagnant qu'elle, parce qu'elle a besoin de ça. Donc elle a complètement embrassé les codes de la virilité, de la domination masculine, et en fait, presque ce qu'elle lui reproche, c'est de ne pas la dominer. Et qu'elle ait pris l'ascendant sur lui, et ça, elle ne supporte pas.
Ça, c'est Chelly. Autre femme, Victoire. Alors, elle déteste, mais alors d'une détestation, mais féroce, absolue, totale, et même un peu cruelle, les dauphins. Mm-hmm. C'est bizarre, tout le monde les aime, les dauphins.
Ben oui, c'est pour ça que ça m'intéressait. Oui, tout à coup, ce personnage a surgi, et je me suis dit, ouais, c'est une fille qui déteste les dauphins. Déjà, ça doit être compliqué de vivre dans ce monde en détestant les dauphins, parce que c'est vrai, tout le monde les aime. Et puis surtout, j'avais envie de lui trouver une bonne raison. Enfin, je veux dire, même la raison préexistait, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais ce personnage qui détestait les dauphins, pour moi, c'était évident la raison pour laquelle elle les détestait. Et
de nouveau, c'était probablement... On peut peut-être la raconter, Adeline Dieudonné. On a l'impression que c'est la petite sœur ou la grande sœur d'Elisabeth, d'Olivier Bourdeau.
Oui, c'est vrai. Ouais,
à l'âge de 12 ans, c'est sa mère qui lui dit, tu pourrais peut-être... poser comme mannequin dans ce centre, un parc aquatique où on lui propose de poser dans l'eau avec un dauphin. Ouais. Et alors c'est quasi une scène de viol par le dauphin.
Ouais. Ouais. Mais en l'occurrence, la différence avec la maman dans le livre d'Olivier Bourdeau, c'est que là, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que c'est un type qui les aborde au supermarché, qui dit, voilà, je tiens le parc aquatique du coin. Donc, c'est une espèce de petit tournage minable où le mec veut tourner des images de cette gamine dans le bassin avec le dauphin. Sauf qu'effectivement, les dauphins ne sont pas forcément des animaux aussi gentils qu'on peut le penser. Et surtout, un dauphin mis dans des conditions... de captivité. J'avais vu ce documentaire que j'avais trouvé extraordinaire, Blackfish, où on parlait...
Tout part des documentaires maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Littérature de fiction dans ce pays sans que ce soit un documentaire. C'était le cas pour Caroline de Mulder, pour Olivier Bourdeau, pour vous.
Il n'y en a pas qu'un, d'ailleurs. Oui, oui,
ah bon,
oui,
d'accord.
Oui. Mais oui, j'étais fascinée. Mais de nouveau, c'est comment est-ce que la violence qu'on exerce sur les animaux peut se retourner à un moment contre nous. On est dans un rapport de domination complet, et c'est la nature qui se retourne, et avec ce personnage qui du coup prend le contre-pied sur les discours écolos auxquels évidemment je souscris à 200% aujourd'hui. Mais justement, ça m'intéressait de voir quelqu'un qui, non, elle rêve de participer à un Grindadrap, ces massacres de dauphins dans les îles Féroé qui sont absolument abominables, mais elle, c'est son délire, c'est son objectif de vie. Voilà, c'est comment à un moment le monde animal se retourne et contre nous, contre la violence qu'on exerce sur lui. Oui.
Et ce personnage s'arrête lui aussi dans cette station service pour faire le plein de kérosène. Autre femme, elle est intéressante, Alika, puisqu'on parlait des dominées, femme de ménage, philippine, prêtée, écrivez-vous, par ses patrons à des amis pour les vacances. Est-ce qu'on s'habitue à être considéré comme un meuble ou est-ce qu'on le devient ?
C'est une grande question. En tout cas, Alika, elle a pas envie de s'y habituer. Et elle est vraiment... j'avais envie de parler de la domesticité et de l'esclavage actuel qui existe et qu'en fait on voit, mais qu'on voit sans le voir. Et donc, elle est là avec cette petite, avec ce petit bébé dans ses bras et qu'elle aime. Et c'est ça que je trouve tragique aussi. C'est en fait l'attachement, puisque ces femmes passent leur journée avec les enfants. Il y a vraiment un lien qui se crée. Et en même temps, les enfants, de nouveau, il y a cette histoire de classe sociale qui fait qu'à un moment, ils apprendront à la mépriser parce que c'est le modèle que leurs parents leur enseignent. Et donc, c'est absolument tragique. Et en plus, Alika, elle n'a aucune marge de manœuvre.
Tout comme Édouard Louis, vous abordez des questions qui sont des questions politiques à travers ce livre, vous l'avez dit, l'ultralibéralisme, l'écologie et son regard aujourd'hui, mais aussi la domesticité et cette misère. Vous avez choisi, contrairement à Édouard, d'aller dans une fiction et dans une fiction qui est, et je reprends ce terme, volontairement farfelue, qui nous fait sourire, qui nous fait grincer, mais qui provoque le rire. Pour quelle raison ?
Alors, il y a plusieurs... Bon, la raison pour laquelle je ne vais pas dans l'autofiction, c'est que ma vie n'a absolument aucun intérêt. Et donc, je ne vois pas très bien ce que j'aurais à en raconter. Pour moi, ma vie n'est pas intéressante. Donc, je ne vais pas la raconter. Après, sur le propos politique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je commence à écrire un livre, je ne cherche pas à traiter un sujet du tout. Ouais. Je me lance dans des histoires.
Et mais de fait, vous le traitez.
Mais oui.
De fait, vous l'abordez.
Voilà. Mais je m'en aperçois a posteriori. Et donc, je pense que c'est comme ça que je dois faire parce que si. Et il y a des auteurs qui le font super bien et j'en entends plein dire ah, mais voilà, moi dans ce livre, j'avais envie de traiter tel sujet. Comme vous le dites, je me suis documentée. Il y a eu une volonté de. Moi, je pense que si je faisais ça, je ferais des livres qui seraient absolument ennuyeux. Parce que ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Moi, je suis très, très instinctive. Et donc, au contraire, plus... Si j'essaye de théoriser et si j'essaye de démontrer quelque chose à travers la fiction, je pense que la fiction va devenir complètement raide.
Donc, c'est au lecteur d'aller chercher... Vous diriez que c'est à l'écrivain de raconter et au lecteur, peut-être, de chercher les interprétations ?
Oui, probablement. Et puis, c'est surtout, c'est les personnages qui décident. C'est les personnages, c'est l'histoire, c'est la façon dont ils vont s'articuler. Et bien sûr que derrière, chaque fois, je retrouve mes obsessions. Et bien sûr, mes obsessions, c'est les rapports de domination qui étaient déjà présents dans la vraie vie, qui sont de nouveau extrêmement présents là. Et bien sûr, c'est mes questionnements au quotidien. Mais je crois que je serais très, très maladroite si j'essayais justement de les traiter de façon cérébrale ou intellectuelle. Parce que je n'ai pas les armes pour le faire, je pense, fondamentalement.
Toutes et tous font face à la solitude. Alors la solitude, elle est au cœur aussi de votre livre, de votre roman. On retrouve ça aussi chez vous trois, de manière différente. On en fait quoi de cette solitude ?
On fait avec. Je pense qu'elle ne nous quitte jamais complètement. Je pense qu'on est toujours seul à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est au cœur
du... Donc, attendez, pardonnez-moi. Les combats pour se libérer, très bien. Les combats... et les métamorphoses pour peut-être trouver une forme de liberté, oui, mais la solitude, aucun combat ne parvient à la renvoyer dans les cordes.
C'est surtout la question de la fin et c'est le fil qui est traversé par Kérosène avec le personnage de Monica. La vieille dame. Qui est le personnage qui vient de la vraie vie, d'ailleurs, dont j'avais un manque, j'avais envie d'en savoir plus sur elle, et on la retrouve dans Kérosène, et c'est vrai que c'est un peu elle qui fait le fil rouge du livre. C'est qui est là au moment où on meurt ? Quelle est la dernière personne qu'on va embrasser ? Qui sont les dernières personnes qui vont poser les yeux sur soi ? Et en fait, ça, malheureusement... On ne choisit pas, quelle que soit la façon dont on meurt, c'est très compliqué d'être entouré en fait, des gens qui ont compté le plus. Et donc ça, je trouve que oui, la question de la solitude des derniers instants, elle est vraiment tragique, parce que je crois que c'est vraiment très 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 rare de pouvoir s'éteindre en tenant la main des gens qui nous sont chers. Et voilà, c'est vrai qu'il y a tout ce questionnement sur la fin de vie, parce que c'est un livre que j'ai écrit pendant la crise du Covid, pendant le confinement. Et donc, il y avait aussi toute cette question sur les EHPAD et sur tous ces gens qu'on a laissés mourir, et qui sont morts dans des conditions qui sont absolument abominables. Et je me suis dit, mais quelle horreur de mourir comme ça, en ayant peur, en étant seul, en n'ayant pas la possibilité d'être en contact avec les gens qu'on aime. Et j'ai entendu ces témoignages Ah, de gens qui ont dû dire au revoir à leur famille sur tablette, sur WhatsApp, mmh. en disant bon ben. Enfin, c'est
ou qui n'ont pas tout simplement.
Ou qui n'ont même pas pu le faire. Ouais, ouais.
Édouard Louis, quel est votre rapport à la solitude ?
La solitude, c'est compliqué. Non, moi, je la pratique beaucoup. Je la pratique beaucoup pour écrire. Donc, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du mode de vie choisi. Mais je sais qu'évidemment, pour tout un ensemble d'individus, la solitude, c'est quelque chose qui est subi. Et donc, ça rejoint la question des mots. Parfois, un même mot peut vouloir dire les deux choses les plus opposées au monde.
En anglais, ils ont les deux. Hein. Il y a loneliness et solitude.
Et solitude,
qui sont exactement. La solitude choisie, la solitude subie, effectivement. Nous, on ne l'a pas.
Kérosène, c'est le nouveau roman d'Adeline Dieudonné et il sort aux éditions L'Iconoclaste. Merci infiniment d'avoir été ensemble ce soir, d'avoir évoqué tous ces sujets et puis parlé de cette littérature que vous détestez et que vous adorez tous. Mais finalement, on adore détester cette littérature. Édouard Louis, merci à vous d'avoir suivi La Grande Librairie. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission exceptionnelle. C'est Yasmina Reza qui sera l'invité unique de La Grande Librairie. C'est son grand retour à la télé après plus de 20 ans d'absence. On parlera de son nouveau livre et puis de son œuvre. Vous pouvez revoir cette émission sur le site France.tv en replay, l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et puis vous pouvez même gagner les livres de nos invités en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur le site et sur les réseaux sociaux de La Grande Librairie. Voilà, et vous repartez. Avec tous les livres. C'est pas beau, ça ? On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles lectures. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.